5, 4, 3, 2, 1.
De Lilith Martinez était sur la piste d'atterrissage.
Mais quel moment incroyable!
Ça fait 10 ans qu'elles prennent les ondes hertziennes.
Elles nous arrivent tout droit de Radio Canu.
Toute la galaxie ne capte pas le 102.2. Enfin, vous pouvez les écouter sur nos ondes!
Lilith, réveille-toi là. Lilith, c'est 17h. Lilith! C'est 17h, c'est l'émission féministe, faut qu'on prenne le micro.
Aujourd'hui, c'est vendredi 7 décembre et comme tous les ans à Lyon, les badauds traînent dans les rues et célèbrent la fête des Lumières. Historiquement, c'est la célébration de la Sainte Vierge Marie qui a tant de fois aidé les Lyonnais et les Lyonnaises à repousser pluie, peste et choléra et qui est tellement célèbre ici qu'on lui a édifié une belle statue en or qui brille sur la colline de Fourvière. Aujourd'hui, c'est plutôt une fête touristique et capitaliste qui apporte aux commerçants et commerçantes lyonnaises la joie de vendre des luminons et autres babioles lumineuses à prix d'or. Périmètre de sécurité, fouilles, spectacles, sons et lumières ultra coûteux, c'est pas le moment de sortir de chez soi. C'est d'ailleurs un peu la croix et la bannière, sans mauvais jeu de mots, pour arriver jusque dans ces studios et vous parler en direct dans ce micro. En ce jour des fêtes des Lumières, Lilith, Martine et les autres te proposent d'éteindre les lumières, d'écouter une émission anti-nucléaire.
Radio Activité, une émission féministe spéciale, aujourd'hui de 5 à 6 sur ton 102.2 FM préféré. Et on commence direct avec un son sur le collectif de cinéma en Super 8, Les Scotcheuses, qui a réalisé un film d'anticipation post-catastrophique à Bure. Alors Bure, c'est un lieu de stockage de déchets radioactifs, mais aussi un lieu de résistance, car qui dit merde nucléaire dit opposant coriace.
Peut-être faudrait faire un point historique extrêmement rapide. En gros, la France a décidé que le nucléaire c'était super et qu'il fallait faire de plus en plus de centrales. Comme ça on avait de l'énergie, pas trop cher, soi-disant propre. Sauf qu'en fait c'est pas vrai, c'est pas très propre et qu'il faut faire quelque chose des déchets parce qu'il y a énormément de déchets et qui sont très dangereux. Et qu'on est hyper embêté, à un moment donné on les met dans la mer, après on s'est dit bof, mauvaise idée, puis en plus l'Union Européenne a fait un peu des décisions qui disaient qu'on n'avait plus le droit, on était un peu embêté, on s'est globalement le monde s'est un peu dit on va arrêter de faire ça, ça pollue trop. Donc qu'est-ce qu'on pouvait faire? Et en France, nous on en avait particulièrement beaucoup parce qu'on a une production nucléaire très importante, et on s'est dit on va les enfouir, parce que c'est un peu la politique de mettre le sable sous le tapis. Au moins, on les voit plus, quoi. Donc, pour l'instant, les déchets, en gros, pour dire, ils sont stockés en surface, dans des piscines. Et donc, on s'est dit, on va les enfuir. Et on s'est un peu dit, tiens, dans tel endroit, on propose ça. Sauf que, évidemment, t'habites dans un territoire, et il y a quelqu'un qui dit, on va mettre des déchets nucléaires chez toi. Tout le monde dit non. Donc, ils ont que des réponses négatives. Ce à quoi ils se sont dit... On va changer de plan, on va aller voir les gens et on va leur dire est-ce qu'on peut venir chez vous implanter un laboratoire pour faire des travaux préparatoires, juste pour voir si c'était possible. Et ça, on l'a proposé en Meuse en disant mais vous inquiétez pas, on va le faire dans plein d'autres endroits en France. Et ils sont arrivés avec ce projet et avec énormément d'argent.
Et des promesses d'embauche, de développement du territoire, pour que la population en fait accepte plus facilement. Donc ils ont donné beaucoup d'argent aux mairies. Du coup ça a permis de refaire des routes, des salles polyvalentes, comment on appelle ça, des salles de salles des fêtes. Voilà. Sauf que aujourd'hui en fait il y a de plus en plus de maires et d'habitants qui se rendent compte que bah, le projet, ça fait, en fait, ça fait très longtemps qu'il existe, ça fait plus de 10 ans.
Et que 99,
depuis 99 que le labo a été construit. Les gens, ils se rendent compte que ça n'a pas du tout développé le territoire. Au contraire, que du coup, bah, les gens sont plutôt partis. Que les gens qui viennent bosser au laboratoire, ce n'est pas des gens du tout du coin. Et que du coup, tout le monde fuit en fait, encore plus cet endroit qui était déjà très sacrifié, déserté.
Bah, le problème, c'est qu'en fait, donc, la loi française a obligé que le site d'enfouissement nucléaire de Bure, une fois réalisé... donc en fait, juste pour préciser, donc il n'y a aucun déchet nucléaire à Bure encore aujourd'hui. Ils sont encore dans une phase où ils tentent des choses, ils font un peu des trous, ils font du laboratoire, quoi. Et en fait, la France n'a pas accepté encore que ce laboratoire devienne un site d'enfouissement nucléaire officiellement. C'est en phase, mais en tout cas, c'est pas, comment dire, dans le cahier des charges. Ils ont obligé l'ANDRA, donc l'Agence nationale de gestion des déchets nucléaires, de réfléchir au principe de réversibilité pendant 100 ans. Donc, ça veut dire que pendant 100 ans, normalement, si jamais on trouve une autre solution, on pourrait re-aller chercher les déchets nucléaires, au cas où il y a un problème, et en faire autre chose. Sauf que pratiquement, en fait, il y a peu de chances que ce soit effectivement le cas, mais en tout cas, c'est une espèce d'obligation pour pallier au fait de dire qu'il y a des gens qui disent que c'est dangereux. Sauf qu'en fait, on ne sait pas comment est-ce que ça va être réellement possible de les récupérer. Et on voit que dans d'autres sites d'enfouissement de déchets nucléaires, notamment en Allemagne, mais aussi dans les États-Unis ou ailleurs, en fait, c'est la catastrophe très rapidement. Il y a des fuites, enfin, c'est l'angoisse, quoi. Et aussi que là, on n'est pas un projet sur 100 ans, en fait. On est un projet sur des milliers d'années, quoi.
C'est un collectif de cinéma et on fait des films en Super 8, donc ça veut dire en pellicule. On fait des films dans des lieux en lutte avec les gens qui vivent là-bas. Et voilà, on est entre 20 et 30, c'est assez variable et on essaie de se transmettre les outils qu'on utilise pour que tout le monde touche à tout. La scotcheuse, c'est le petit outil qui permet de coller les films, la pellicule ensemble.
En fait,
parce que c'est ouais. tu mets un petit morceau de scotch pour coller un plan l'un après l'autre.
Bah, l'idée, c'est de faire partie d'un collectif de cinéma, mais qui ne reprenne pas les codes du cinéma. Le cinéma, c'est un milieu qui est extrêmement horizontal. Vertical, ouais. C'est un milieu qui est extrêmement vertical, où vraiment des petits assistants aux réalisateurs, enfin c'est des mondes qui communiquent même pas ensemble, et avec les gens qui font à côté la cuisine, enfin tout est extrêmement quadrillé. Et nous, l'idée, c'est que quand on fait un film, il y a une personne qui puisse et faire à manger, et faire du son, et jouer dans le film, et filmer, et s'occuper de l'organisation en amont, de monter des barnums. Et comme on est aussi dans des lieux de lutte, ça veut aussi dire qu'on fait ça et après, et en même temps en fait. Ça veut aussi dire faire des bouffes collectives pour tout le monde, proposer des projections, aller à des manifs quand il y a besoin d'aller à des manifs, participer aux constructions des choses. Et donc c'est sans dire qu'on peut tout faire parce que ce serait faux et que évidemment on a des... l'envie aussi de plus travailler le son, plus des choses qu'on a plus envie que d'autres. Mais l'idée, c'est d'essayer vraiment de prendre part à plein de choses différentes. Et ensemble.
Non, souvent on pense que c'est un groupe non mixte, mais c'est un groupe mixte.
Mais c'est un petit peu extrait quand même. que... Enfin, moi, je me suis toujours dit ça.
Bah, ce qui est
drôle... J'étais pas là au début. Mais moi, je crois que ça nous plaît, que ce soit un nom féminin et que on parle de nous au féminin, alors que... Il y a des mecs aussi.
Mais du coup, c'est drôle parce qu'on dit tout le temps elle. Et ouais, moi, ça. Enfin, des fois, quand les gens ils disent scotcheur, on les reprend, on dit non, non. Enfin, c'est chouette, mais nous, on est des scotcheuses. Et en fait, c'est des choses qui n'arrivent jamais, en fait, dans les collectifs mixtes d'avoir des prénoms féminins où on dit elle tout le temps. Et en fait, moi, c'est devenu normal, en fait. Mais c'est très agréable.
La dimension politique, ouais, elle est évidente parce que c'est un collectif qui va sur des lieux de lutte.
Le dernier, il est en cours de fabrication.
On l'appelle le film d'après.
C'est un film qu'on fabrique à Bure. Donc Bure, c'est une commune dans la Meuse où il y a un projet d'enfouissement de déchets radioactifs. Et donc il y a des gens qui habitent là-bas de base et aussi des gens qui habitent là-bas pour s'opposer à ce projet. Et le film qu'on fabrique là-bas, c'est une fiction qui se passe dans un monde où il y a eu une catastrophe nucléaire. Non, pardon, on ne sait pas si c'est une catastrophe nucléaire, mais quand même, ça y ressemble beaucoup.
Il s'est passé quelque chose. Okay. On ne sait pas ce qui s'est passé, en fait. Okay. Mais c'est un monde transformé.
Post-apocalyptique.
Oui.
Et voilà, et donc il y a des gens qui essayent de survivre dans ce monde-là, de s'organiser pour résister à un labo qui contrôle tout. Voilà, je sais pas.
Faut pas trop en dire.
Sans trop en dire, mais on peut dire qu'il y a... Enfin, moi j'aime bien dire très brièvement qu'il y a trois... En fait, il y a trois univers. Il y a un univers qui est dans un laboratoire, qui est un univers un peu... de personnes plutôt qui représentent un peu un pouvoir, qui sont plutôt des scientifiques et qui vivent sous terre. Il y a ce monde un peu de ce que c'est la Meuse aussi, parce que même si c'est une fiction, forcément, on est dans un territoire, donc c'est des habitants, avec d'ailleurs des copains qui sont pour de vrai des agriculteurs là-bas qui ont bien voulu jouer avec nous dans le film, et enfin, c'est trop bien. Et un autre univers qui est un univers plutôt de personnes un peu opposées à ce monde-là et opposées un peu aux gens qui sont dans le laboratoire, enfin dans le souterrain, et qui sont des gens qui habitent dans une forêt et qui essayent de se débrouiller autrement, quoi. Et cette forêt, et ben en fait, pour faire un petit lien avec Bure, cette forêt, c'est la forêt qui a été occupée pendant un an et demi, qui était la forêt du Bois le Jus, et qui a été, donc le Bois le Jus, c'est la forêt, c'était l'ancienne forêt qui appartenait à la commune de Mandre. Mandre, c'est un village qui est collé, enfin qui est juste à côté, pas collé, mais qui est voisin de Bure. Et cette forêt a été occupée pendant un an et demi parce qu'elle était très importante dans le projet du laboratoire pour enfouir des déchets nucléaires à Bure. Et du coup, nous, forcément, on a eu hyper envie de tourner dans cette forêt. Maintenant, malheureusement, elle est de nouveau... Enfin, elle appartient à un endroit et nous, on peut plus y aller. Mais on aura au moins arraché des belles images et récolté des beaux souvenirs dans cet endroit, quoi.
Alors, si vous voulez plus d'infos sur la lutte à Bure, vous pouvez aller sur le site burburbure.info. Le comité de soutien local sur Lyon et sur Saint-Étienne, qui s'appelle la CAB, la Clique des Amis de Bure, ont aussi un mail, c'est cliquedesamis@riseup.net. Et pour les rencontrer directement, il y aura une soirée à Lyon le 15 décembre au bar Les Clameurs à la Guillotière avec les gens de la CAB et le réseau Sortir du Nucléaire. on enchaîne avec la lecture d'un passage du livre « Les femmes » de Pogloff. C'est un livre qui rapporte les propos des femmes donc, de Pogloff qui ont été recueillies par deux militantes antinucléaires au cours des rencontres antinucléaires en 1980. Dans ce livre, les femmes de Pogloff, elles racontent leur lutte contre l'implantation d'une centrale nucléaire qui voulait s'implanter depuis 1976. Elles racontent l'occupation policière, les enquêtes, leur vie quotidienne, le choix d'un mode de vie auquel elles étaient attachées et leur détermination. On vous lit un petit passage qui s'appelle « Les cailloux ».
Les premiers cailloux, ce sont les gens de Pogloff. Quand ils ont vu cette invasion, ils n'ont pas pu s'empêcher, quoi. Ils n'ont pas compris ce que ces gens-là venaient faire chez eux. Ça a été instinctif. C'est même pas les jeunes, c'était les gens âgés de 40, 50 ans. On les sentait malades, envie de pleurer, de voir ces gens-là venir chez eux. Envie de faire quelque chose. Ils ont pris un caillou. Ce n'était pas histoire de casser du flic. C'était loin d'être ça. Ils ne pouvaient pas supporter de voir cette chose imposée comme ça par la force. Les gardes mobiles étaient très agressifs. J'ai été choquée, parce qu'ils nous reprochaient les cailloux, et eux, ils avaient le fusil. C'est rien les cailloux, en fait. Je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas pris un caillou, alors qu'eux, ils étaient armés jusqu'aux dents. Ils avaient un fusil, la matraque, des grenades. Ils avaient tout, et nous, rien. C'est révoltant. On n'avait que ça. C'était notre seul moyen de défense, le caillou.
Et tout de suite, on retrouve Astrid pour la météo nucléaire. À Dampierre, Pépin de condensateur, l'exploitant a procédé à des lâchers de vapeur sans rien dire à l'autorité de sûreté. EDF, petit cachotier. Un conteneur d'hexafluorure mal identifié a, par inadvertance, été expédié vers l'un de nos clients étrangers. Des erreurs de colis, ça peut arriver. À Nogent-sur-Seine, un filtre limité les rejets dans l'air de radioactivité, mais il était monté à l'envers depuis 3 ans. Ça n'aurait eu d'incidence qu'en cas d'incident. À La Hague, Areva reconnaît avoir autrefois un peu contaminé les terres voisines à l'américium, un élément radioactif marqueur du plutonium. Passons rapidement sur Fukushima, où les nombreux experts n'en reviennent pas, des niveaux de rayonnement monstrueux relevés dans le réacteur 2. Direction Flamanville, où une petite détonation semble avoir suscité beaucoup d'émotions. Allons, allons. Pas de quoi avoir peur, ça n'était que l'explosion d'un ventilateur. À Cap-Nome, un nouvel incendie. 1000 m2 de bureaux ont été détruits. Un si grand feu qu'il a illuminé la nuit, donnant lieu à de jolies photographies. Enfin, bonne nouvelle, dans les monts d'Arrée, la petite Brennilis, depuis 30 ans fermée, sera démantelée, si tout se passe bien, à l'horizon 2031. Si on trouve comment faire. Un grand merci à Astrid pour cette météo nucléaire qui nous fait voyager partout en France avec un inébranlable sentiment de confiance. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bientôt pour de nouvelles intempéries.
Fin novembre 2011, la nouvelle campagne de pub de RDF, Électricité Réseau Distribution France, filiale d'EDF ayant le monopole de la distribution de l'électricité, a largement été diffusée sur les murs et dans les pages des journaux. Elle consistait en 2 affiches produites par l'agence de publicité Euro RSCG CEO, censées correspondre aux 2 métiers et principales missions de service public de RDF, le raccordement et le dépannage. Sur une de ces affiches, où l'on voit une camionnette bleue aller vers un pavillon perdu en pleine tempête, on pouvait lire en légende « Ce ne sont pas quelques gouttes qui vont nous arrêter ». Quelques gouttes, la vague qui submergea Fukushima Daiichi.
Selon l'étude de Céline Topscu, auteure d'une thèse sur le nucléaire, la publicité chez EDF est née avec la contestation. Dans les années 70, les premières critiques prennent de l'ampleur, notamment autour du plan Messmer. Le mouvement antinucléaire contribue à discréditer cette énergie en soulignant les graves conséquences d'une nucléarisation de la France. C'est alors que les premiers messages publicitaires apparaissent afin de réhabiliter l'image d'une production d'énergie quelque peu écornée. La publicité met alors l'accent sur la grande mission d'électrification de la France, mais le nucléaire n'est pas nommé. Au début des années 80, la campagne Énergie France met en avant l'indépendance énergétique nationale. Le nucléaire n'est alors désigné qu'à demi-mot.
Après la catastrophe de Tchernobyl, la situation a changé.
la réalité de l'accident et de la contamination peuvent difficilement être tues. EDF mentionne alors ouvertement le nucléaire. C'est à cette époque qu'EDF ouvre les centrales au public. En France, on apprend que le nucléaire est là. Là, sous la lumière qu'on tamise. Là, entre chaque note de musique. Dans le ronronnement familier de la machine à laver. Derrière la TV. Même là, dans nos petits plats. Dans chacun de nos gestes quotidiens. Le nucléaire est là. Car aujourd'hui, c'est le nucléaire qui couvre plus des trois quarts de nos besoins en électricité. C'est le nucléaire qui nous met à l'abri des caprices des marchés et de l'actualité. C'est le nucléaire, enfin, qui nous permet de ne pas manquer de cette électricité dont on ne saurait plus se passer. Le nucléaire est à présent décrit comme un phénomène incommensurable et intrinsèquement lié à la réalité quotidienne. Il se situe au-delà de la sphère du choix. C'est un fait accompli auquel nous sommes intimement liés. Lui seul peut nous apporter sérénité et bien-être. Il serait donc vain et irresponsable de critiquer cette énergie miracle, CQFD. La deuxième grande œuvre de la publicité chez EDF a été de construire une image du nucléaire comme énergie verte, car permettant de limiter l'émission des gaz à effet de serre. La campagne de publicité « Nous vous devons plus que la lumière » nous dit que, grâce au nucléaire, notre ciel ressemble de plus en plus à un ciel, qu'EDF se soucie particulièrement de la nature et des animaux. Elle met en avant un consommateur moderne, responsable, qui choisit avec le nucléaire une source d'énergie plus écologique et plus économique, une puissance énergétique qui assure le progrès des générations futures.
Bref, le nucléaire est un choix de civilisation permettant de réconcilier l'inconciliable, l'industrialisation accrue et la protection de la nature. Le tournant écolo d'EDF, malgré les mensonges grossiers sur lesquels il repose, constitue pour la filière nucléaire un succès, aussi spectaculaire que celui de l'atome pour la paix qui cherchait à éloigner le spectre de la bombe atomique en différenciant nucléaire militaire et nucléaire civil.
Incroyable, mais vrai.
Le 16 octobre 1969, le général de Gaulle inaugure le réacteur de Saint-Laurent-des-Eaux. Le lendemain, une erreur de manipulation lors du changement du cœur du réacteur provoque la fusion de 50 kilos d'uranium.
Incroyable mais vrai, à Saint-Laurent-des-Eaux toujours, le 13 mars 1980, une tôle de 0,5 mètres carrés se détache et vient toucher et vient boucher le circuit de refroidissement. 20 kilos d'uranium partent en fusion. Il y a eu des rejets de plutonium dans la Loire, mais nous ne l'avons appris que 8 ans plus tard, raconte Bella Belbosch, physicienne.
Incroyable mais vrai, à Civaux le 12 mai 1998, une fuite radioactive de 30 000 litres d'eau par heure se déclenche sur le circuit de refroidissement. C'est une fissure sur un tuyau de coude qui est à l'origine de cette fuite, un défaut de conception.
Incroyable mais vrai, à Flamanville, le 4 décembre 1910, un toit s'effondre en décembre sous le poids de la neige. Un tel événement n'est pas inédit, puisque déjà en décembre 1990, le toit du supergénérateur Super Phoenix s'était lui aussi effondré suite à des chutes de neige, commente le réseau Sortir du Nucléaire.
Incroyable mais vrai, bonus. En 2010, à La Hague, un camion défonce un mur de confinement et des conteneurs remplis de déchets vitrifiés se renversent.
Moi je suis à l'âge atomique. Mon cœur est une pile électrique. Quand on me crie au pépé, je me sens rayonner. Mais tout ça s'explique à l'âge atomique.
C'est bon la technique.
C'est une émission anti-nucléaire aujourd'hui. Pendant que les Lyonnais fêtent les Lumières.
Je suis infirmière aux Hospices Civils de Lyon et je travaille dans les services d'urgence. Tous les services d'urgence, le personnel est formé, médical, paramédical, pour ce qu'on appelle l'afflux massif de victimes et pour différents risques.
Et donc concrètement, toi tu fais quoi par exemple ?
Concrètement, on apprend à s'habiller en tenue... En tenue NRBC, c'est les tenues de protection individuelle, donc avec les masques, l'extracteur d'air, et on apprend donc à s'habiller, ce qui n'est pas très compliqué, et aussi à se déshabiller en faisant pas de faute de contamination.
Et comment on décontamine une personne ?
En gros, c'est un système de douche, de lavage. En fait, on la déshabille, elle se lave, et puis après, en fonction du produit, il peut y avoir aussi différentes... de la poudre que tu mets dessus en fait pour absorber les éléments par exemple biologiques ou chimiques qui pourraient être contaminants. Dans les hôpitaux, il y a des aménagements de zones avec des douches d'eau chaude, s'il vous plaît, tout de même, ça a été pensé, pour des circuits, pour que les gens ne... Justement, l'idée, c'est que personne ne rentre contaminé à l'hôpital, parce qu'après, il y a un risque, forcément. Mais du coup, il y a des sas qui ne sont pas habituellement utilisés pour ça dans les hôpitaux, mais qui peuvent l'être au cas où. Et après, en préhospitalier, il y a les pompiers ou le SAMU ou les militaires ont des tentes de décontamination.
Donc, et toi, avec ta tenue, là, t'es sûre de ne pas être contaminée ?
Ouais, c'est le but. Mais normalement, on est formé pour, effectivement, pour que ce soit bien... qu'on n'ait pas de risque, quoi. Après... Okay. Ouais. Après, ça, c'est toute la théorie, en fait. Comme c'est... ça n'a jamais été fait, je ne peux pas dire que demain, s'il y a un accident, oui, je resterai peut-être 2 heures, alors qu'on m'a toujours dit qu'en fait, non, on ne reste pas plus d'une heure. Mais je pense que le jour où ça arrive, ça risque d'être quand même très compliqué. On ce qu'on prévoit, on sait que ça ne marchera pas tout à fait comme ça.
Et alors, on imagine demain, il y a un accident nucléaire à Lyon.
Ça va être compliqué, petit 1, mais après, petit 2, normalement, y a des déclenchements de personnel supplémentaire, de moyens supplémentaires qui devraient pouvoir répondre à la demande. J'ai envie de dire, à Lyon, on l'a heureusement pas encore testé. Et du coup, on espère ne jamais le tester. Mais a priori, on est quand même préparé si jamais.
Mais moi, j'ai pas lu le... Bon.
Josen signifie « décontamination » en japonais. Littéralement, enlever la contamination. Ce terme, jusque-là presque inconnu et même absent de nombreux dictionnaires, est devenu omniprésent dans la société japonaise depuis que le gouvernement en a fait le maître mot de sa politique post-Fukushima. Des contrats d'un montant total de 13 milliards de dollars ont été signés avec trois majors du BTP japonaise, les bâtisseuses des centrales, pour décontaminer une zone d'une superficie de 20 000 km², soit l'équivalent d'un pays comme la Slovénie.
En lançant le mot d'ordre de décontamination, les autorités japonaises veulent croire et laisser croire qu'il est possible, au prix d'efforts inégalés, de venir à bout de la radioactivité comme on vient à bout d'une épidémie. Que des mesures titanesques permettront de faire place nette, d'éradiquer la maladie et de reconstruire sur des bases saines. Réflexe optimiste de désinfection, hérité des heures de gloire de la médecine moderne. Le terme de contamination remonte à la deuxième moitié du XIXe siècle, époque où Pasteur et ses contemporains mirent en évidence le mécanisme de transmission des maladies bactériennes et virales. En identifiant les germes qui en étaient responsables, ces biologistes découvrirent en même temps des moyens simples d'en éviter la propagation. Sur les ustensiles et le corps, dans l'air ambiant ou l'eau, on pouvait les tuer par ébullition grâce à de l'acide phénique ou toute autre solution désinfectante. Les termes de contamination et de décontamination renvoient, de façon rassurante, à ces victoires scientifiques qui, en faisant baisser la mortalité de façon spectaculaire, donnèrent aux contemporains, du début des temps modernes, quelques raisons de placer leurs espoirs dans la nouvelle civilisation industrielle qui s'imposait à eux. Ces découvertes restent encore aujourd'hui l'une des principales cautions de ce que l'on appelle le progrès. L'invention de la fission atomique a découlé, près d'un siècle plus tard, de ce même élan d'optimisme à l'égard des bienfaits de la science. Sauf que dans le cas des radiations, aucun désinfectant n'a jamais été mis en évidence. Il n'existe à ce jour pas de moyen technique de tuer la radioactivité comme on tue un germe. On ne peut que la déplacer. Si vous parvenez à lessiver une surface radioactive, vous obtenez de l'eau radioactive. Si vous frottez un objet radioactif, vous obtenez un chiffon radioactif. Brûler une plante radioactive disperse une fumée radioactive dans l'atmosphère, et ainsi de suite.
Thyroïdie. Maladie invisible. Maladie de femelle. Maladie des années 2000.
J'ai les mains qui tremblent au petit matin, le cœur qui soulève le t-shirt au moindre escalier, l'insulte constamment au bord des lèvres, le souffle et les idées coupées. J'en chie. Je mets du temps à distinguer le problème. Le problème se planque sous plusieurs visages. Le médecin dit :
vous avez bien fait de venir, vous en êtes à un stade critique.
Le médecin est un con. Lui, je le capte direct. Quand j'en parle, on me répond.
Génération Tchernobyl. Manger les pissenlits irradiés par la racine. Manger et avoir faim tout le temps. Manger et chier trois fois par jour.
Je commence le traitement. Je relis plusieurs fois les notices, comprimer ses câbles, à prendre de préférence le matin, à jeun avec un verre d'eau. Effet indésirable fréquent. Fatigue, refroidissement des extrémités, ralentissement du rythme cardiaque, insomnie, cauchemar. Le médecin m'explique que c'est une maladie auto-immune. Mon corps ne reconnaît plus ma thyroïde. Mon corps se retourne contre lui-même. Le médecin dit « rupture de la tolérance au soi ».
Corps cinglé qui s'en prend à lui-même. Corps qui court à sa propre perte. Qui s'emballe toujours plus vite.
Tous les organes en accéléré. Cœur, cerveau, intestin, foie. Les circuits sentent le roussi, le pneu brûlé. Explosion du réacteur numéro 4, 26 avril 1986. Tchernobyl. J'ai un an et demi, je vis à l'est du pays. Non, les Alpes ne protègent pas. Le nuage est partout. Les gorges d'enfants sont molles, elles s'enflamment, le monstre s'infiltre en moi, la France s'en fout. Aujourd'hui, l'expression « perturbateur endocrinien ». C'est mignon, une petite perturbation, une bruine de rien du tout. Hein, c'est mignon, c'est caché rond, ça s'avale sans y penser, avec une flotte contaminée. Devenir paranoïaque, brocoli, champignons, gel douche, produits à vitre, gaz d'échappement partout, nez et gorge en alerte. Haïr le progrès et le capitalisme, j'ai la pisse qui schlingue à cause des médocs. Haïr le remède autant que la maladie. Hyper-thyroïdie. Nom de discothèque des années 80. Maintenant je danse avec l'ennemi. Je décide de lui retourner la cervelle, de l'endormir avec ma petite morphine maison. Tu m'en diras des nouvelles, écrire la gorge, faire de la maladie un truc new age, presque joli, en faire une incantation, utiliser la discorde, lui foutre sur la gueule, puisqu'elle s'acharne, moi aussi. Exagérer la maladie, la grossir, la caricaturer, lui donner une forme, un rictus, une consistance, la malaxer, pâle, tiède, collante, mouillée, mâchée, je t'en fais une sculpture géante en béton, en crépit, dégoulinante, grosse bête, vorace, trouée au milieu, monstre de tête et cou, massif, coup de taureau, épaule pointue, clavicule saillante, faut qu'on voit les os, le squelette de la bête, faut qu'on devine, mais qu'on demande, qu'on murmure horrifié, qu'est-ce que c'est? Qu'on ait peur d'abord, puis qu'on s'approche, qu'on ait envie de zioter de plus près ce tas de terre molle qu'on soit pris d'une curiosité malsaine. Faut que la bête suscite l'effroi, qu'on soit sidéré, qu'on tombe dans l'admiration, oui, qu'on finisse par tomber à genoux devant le chef-d'œuvre, à deux genoux mortels devant ce machin inhumain. L'avons-nous vraiment créé? L'origine de cette création, qui, quoi, comment, engendré, sorti par quel trou, quelle cavité, profondeur, nuit des temps, par quelle nuit, de quelle pleine lune, la génération folle a-t-elle expulsé cette chose, vomi, craché, chier, renvoyé, accouché, cette chose, l'impulsion, l'énergie, l'étincelle, la rencontre, le contact, le truc, qui fait que ça prend, ça procrée, ça produit du mouvement de la matière, la foudre, l'énergie, la chimie, la force, en faire une force. Radioactive. Vivant. Prête à se venger.
Je veux vous dire à tous et toutes que Fukushima est un très bel endroit. À l'est, la région d'Amadori contemple au loin le bleu profond du Pacifique. La région de Nakadori est la maison au trésor des fruits, pêches, poires et pommes. Les tiges dorées du riz inclinent leur tête dans la plaine d'Aizu, autour du lac Inawashiro et du mont Bandai, alors qu'au lointain s'encadrent d'immenses chaînes montagneuses. Ce pays, avec ses montagnes bleutées et son eau claire, est notre patrie. L'accident nucléaire du 11 mars a fait pleuvoir la radioactivité, invisible aux yeux, sur ce paysage, et nous sommes devenus, nous aussi, des Hibakusha, le nom donné aux survivants des bombes atomiques d'Hiroshima et Nagasaki. Au milieu de cette confusion, diverses choses nous sont arrivées. Pris entre une campagne de sécurité rapidement déployée et des sentiments de frayeur, les liens entre les gens ont été brisés. Qui peut dire combien de personnes ont été inquiétées et affligées dans nos localités, nos lieux de travail, nos écoles, nos maisons? Jour après jour, de nombreuses décisions inéluctables nous ont été imposées. S'enfuir ou non, manger ou non, faire ou non porter des masques à nos enfants, étendre ou non le linge dehors, labourer ou non nos champs, parler de quelque chose ou rester silencieux. Il y a eu diverses décisions déchirantes, et maintenant, au cours des derniers 6 mois, les choses suivantes sont devenues claires, la vérité sur la situation est cachée. Le pays ne protège pas ses citoyennes et ses citoyens, l'accident n'est toujours pas fini. Les habitants de la préfecture de Fukushima sont devenus des sujets d'expérimentation nucléaire. Il reste un immense volume de déchets radioactifs. Malgré le prix énorme que nous avons déjà payé, il y a des pouvoirs qui sont résolus à poursuivre la production d'énergie nucléaire. Nous avons été mis au rebut. Nous poussons des soupirs d'épuisement et de tristesse accablante. Mais les mots qui sortent de notre bouche sont « Ne vous avisez pas de nous traiter comme des idiots. ne volez pas nos vies. Au milieu de notre colère et de notre douleur, nous, les citoyens et citoyennes de la préfecture de Fukushima, nous nous levons tranquillement. Mère et père, grand-mère, grand-père qui veulent protéger leurs enfants. La jeune génération qui se bat pour qu'on arrête de lui voler son avenir. Les ouvriers et ouvrières qui tentent d'aider ceux et celles qui nettoient la centrale nucléaire ravagée, exposée à d'énormes doses de radioactivité dans ses opérations. Des fermiers remplis de désespoir par la contamination de leurs terres. Des personnes handicapées déterminées à ce que la radioactivité ne crée pas de nouvelles discriminations et séparations. L'une après l'autre, chacun de ces citoyens et citoyennes se pose des questions sur la responsabilité de l'État et de TEPCO et nous élevons nos voix pour dire « plus de réacteurs nucléaires, nous sommes devenus les dragons du Tohoku, brûlant tranquillement de fureur ».
C'est bizarre comme courrier en tout cas. Là, c'est le drapeau qui
est... Est-ce que non, est-ce que...
On dirait qu'il a pris une amende.
Ouais. Ah oui, mais c'est complètement flippant déjà le titre sur l'enveloppe.
Parce qu'on peut quand même dire que c'est risque industriel majeur, vous êtes concerné. Bon, en même temps, moi je suis pas concernée parce que c'est...
Ah, il y a un magnète à l'intérieur.
Là, t'as un magnète pour ton frigo, donc ça c'est génial. Et ça, c'est toute la zone.
Voilà, de danger.
De danger, de quoi en fait
ben, c'est Lyon. En fait, t'as les risques, c'est Lyon.
Près de chez vous, 24 sites industriels sont concernés. Donc en gros, c'est s'il y a un problème, comment faut réagir?
Il faut coller le magnète sur le frigo, ça protège.
Mettez-vous à l'abri. Écoutez France Bleu.
France Info.
France Inter. Ne téléphonez pas.
Et n'allez pas les chercher.
À l'école. Fin de l'alerte.
Comme nous, vous habitez une zone à risque.
Le saviez-vous ?
Donc on te fait passer le truc pour... Eh, regardez, c'est cool.
Comme nous, lisez cette brochure et soyez prêts.
Il existe plus de 120 établissements à risque industriel majeur en Auvergne-Rhône-Alpes, dont certains près de chez vous. Un accident peut arriver dans le cadre d'une activité industrielle, établissement classé Céveso, nucléaire, de transport... Ah, mais tu...
Ah, pardon, putain.
Un accident peut arriver dans le cadre d'une activité industrielle, nucléaire, de transport ou de stockage de matières dangereuses. Engendré par une production industrielle dont notre société a besoin, ces risques font l'objet de mesures drastiques pour éviter qu'un accident ne survienne. Mais le risque zéro n'existe pas. Alors, comme nous, lisez cette brochure et soyez prêts.
Donc c'est le préfet qui nous envoie ça.
Et ça dit quoi, là, ton émission de radioactivité ?
Ça dit accident majeur, dispersion d'éléments radioactifs sous forme d'aérosol ou de particules dans l'air, l'eau ou le sol. Mesures de prévention des risques. Organisation spécifique du tri des wagons.
Oh bah ça va tout changer.
Ok. Bah écoute, celui qu'on va se réjouir. Hyper rassuré, quoi. Réserve d'eau et d'émulseurs.
Super.
Bah, super, mais en fait, enfin.
La région, c'est plus joli.
Site sécurisé, je sais pas, c'est écrit ça, ça veut rien dire. Sur tous les trucs, en fait, c'est marqué. Site sécurisé. Ok, bon, bah, c'est bon, en fait. Voilà, pareil. Site équipé de moyens de prévention et de protection contre les risques. Répondant aux standards de la profession.
Moi, je suis très rassurée. Hein.
Chaîne de sécurité instrumentée.
Ah, bah, voilà.
Quand tu regardes les petits logos, la tête de mort, le petit feu, le poison qui meurt.
Je sais pas, c'est pas des petits dessins qui...
Youpi ! Je sais pas, il y a pas un smiley qui... tu vois même qui fait un petit pouce, quoi. Genre, c'est pas... Regarde celui-là, quoi. Il y a une personne, il a une bombe qui explose dans l'île.
Oh oh.
À tout moment, sur ordinateur ou site mobile, smartphone ou tablette, retrouvez les informations utiles sur les risques industriels dans votre région et la conduite à tenir en cas d'alerte. 122 établissements implantés dans 11 départements d'Auvergne-Rhône-Alpes sont concernés. Ils sont regroupés dans 22 zones appelées « bassins » pour lesquelles une brochure spécifique a été éditée. Celle-ci, j'imagine. Le site bonreflex.com permet de retrouver la brochure de votre bassin et de la télécharger. Ouais, ça dit rien en fait.
Je crois que j'allais me coucher.
Bon, tu te souviens, 1 minute 40.
Si j'entends la sirène.
Si c'est 1 minute 10, tu te lèves pas, c'est pas la peine.
J'ai rallumé France Bleu.
Plein de collectifs qui s'engagent à travers la France sur la question du nucléaire. Aujourd'hui, en fait, l'uranium, il n'y en a plus du tout qui est extrait en France. Il est exclusivement extrait à l'international. Et il y a donc, quand on nous dit que le nucléaire est une technologie qui rend la France indépendante, c'est là qu'on voit que pas du tout en fait, puisqu'on on importe la totalité de l'uranium qu'on utilise dans les 58 réacteurs français, et on l'importe du Niger, d'Australie, d'Inde, des États-Unis, du Kazakhstan et du Kyrgyzstan. Donc d'abord sur comment il est extrait, pour déjà avoir une idée de ce que ça engendre comme problématique. Donc il y a différents types d'extraction. On peut extraire l'uranium en profondeur, à ciel ouvert. On peut imaginer que ça crée des poussières, pas mal de poussières radioactives quand c'est à ciel ouvert. Et puis il y a également une technique qui est utilisée aujourd'hui qui s'appelle le in situ leaching, qui est un petit peu similaire à la technique pour extraire les gaz de schiste, c'est-à-dire qu'on ingère des solvants dans la terre et qu'on pompe ensuite ces matières. Donc c'est des techniques qui sont toutes très polluantes pour l'eau, pour l'air, pour les terres, etc. Voilà, et puis ensuite quand c'est fabriqué, on va extraire de la roche le minerai, on va extraire l'uranium, et en extrayant l'uranium, on va laisser de côté des stériles qui certes n'ont pas assez d'uranium pour être exploités, mais présentent d'autres produits radioactifs, comme notamment le thorium, qui est un minerai qui est extrêmement radioactif, et qui vont rester sur les sites où a été extrait l'uranium. Donc c'est un vrai problème, et de ces déchets là de l'extraction et d'éventuellement ce qu'on arrive à récupérer, quand on avait encore des mines en France jusqu'en 2001, ça c'est pour venir un petit peu sur où il est extrait, ces déchets ont été utilisés comme matériaux de remblai, pour faire des routes, pour faire des stades, et c'est des endroits où aujourd'hui on trouve une radioactivité très très importante. On peut vraiment prendre l'exemple du Niger, parce que je crois que c'est assez frappant. Il y a des villes qui ont été totalement créées par Areva, qui exploite les mines au Niger. La ville d'Arlit, par exemple, où il y a aujourd'hui 50 millions de tonnes de résidus miniers qui sont à l'air. Les déchets et les ferrailles qui servent pour la mine sont ensuite vendues sur les marchés quand elles sont trop vieilles dans la mine. Et comme il y a vraiment beaucoup de récupération qui se fait, les ferrailles, elles sont radioactives et elles sont vendues pour construire des maisons, construire un certain nombre de choses sur place. Et les échantillons qui ont pu être prélevés là-bas tout le taux de radiation est extrêmement important et les populations sont très peu informées. Il y a des vrais problèmes de santé publique également, avec des conséquences sanitaires assez graves, avec des taux de cancer qui sont plus importants que dans le reste de la population, etc. Donc, aujourd'hui, l'entreprise française Areva exploite ces mines d'uranium, achète ça très peu cher aux populations locales et au Niger. Et aujourd'hui, à tel point que même si c'est une vraie ressource, le Niger est un des pays les plus pauvres dans tous les indicateurs. Donc c'est clairement une exploitation des ressources qui ne sont pas à nous. Plein de tendances différentes dans cette idée de sortir du nucléaire. On a des groupes qu'on représente qui voudraient une sortie tout de suite et qui pensent que c'est possible et qui ont élaboré des scénarios dans ce sens-là. Disons, quand je dis tout de suite, c'est dans les 5 ans, donc c'est très rapide. Et puis on a des groupes qui sont plutôt attachés à d'autres théories, qui disent qu'il faudra prendre plus de temps et que, comme le scénario par exemple Negawatt, qui dit que pour sortir du nucléaire, il faudra plus d'années et qu'on y arrivera. Il y a des scénarios qui sont à 5, à 10, à 20, à 30 ans. Tous ces scénarios, ils mettent en avant, pour la plupart, trois choses sur lesquelles on peut agir aujourd'hui. D'abord, c'est important de s'interroger sur la sobriété et sur les consommations d'énergie qu'on fait et nos réels besoins en termes d'énergie. Il y a aussi un grand enjeu qui est l'efficacité énergétique, c'est-à-dire comment on répond aux besoins qu'on a identifiés, qui est un réel besoin, hein. On ne va pas revenir à la bougie pour autant, mais comment on peut y répondre. Donc c'est l'isolation des bâtiments, c'est l'amélioration technologique, on va dire, des appareils qu'on utilise et d'être vigilant qu'ils soient efficaces en fait, ça c'est un vrai enjeu. Et puis le dernier enjeu, pour changer de mode de production d'électricité, une fois qu'on a travaillé sur ces axes-là, et bien c'est le développement des énergies renouvelables et de passer à autre chose. Alors sur ce point, peut-être je vais insister, le réseau Sortir du Nucléaire milite pour que ces énergies renouvelables, elles ne reproduisent pas le modèle existant, qui est un modèle ultra centralisé de production d'énergie, mais que ça soit beaucoup plus géré de manière locale, que ça ne soit pas centralisé, que ce soit adapté aux territoires dans lesquels elles sont installées. On n'est pas en train de parler de champs d'éoliennes industrielles organisées et installées par par des sociétés privées et qui cherchent à faire du profit là-dessus. On est en train de parler de production d'énergie pour des collectifs. Voilà, à ce titre, on peut parler de Enercop, qui est une société qui vend de l'énergie, mais c'est une coopérative où chacun a des parts et a une voix et qui produit de l'énergie verte et qui mène des projets d'installation de d'énergie renouvelable, photovoltaïque, méthanisation et autres, mais adaptées aux territoires dans lesquels c'est installé et pas dans une logique industrielle. Donc voilà, ça c'est extrêmement important que ça se fasse de cette manière-là et que ça se fasse finalement aujourd'hui à échelle humaine et à échelle voilà, de quartier, de région, etc.
Dans cette émission collage, vous avez entendu des extraits de la revue Z, du livre des femmes de Pogloff et des créations sonores de notre cru. Parce que le nucléaire n'est pas qu'un problème à grande échelle et que ses conséquences dangereuses et mortelles touchent nos intimités et nos quotidiens, nous avons voulu en parler. On mettra tous les liens sur notre blog et aussi les références des musiques utilisées. Bonne soirée. Et à dans 2 semaines.